Voilà, c'est ce thème de message qui, en fait, sera juste effleuré, je peux dire, aujourd'hui. Rappelé à tous. Mais, voilà, qui peut nous rafraîchir dans notre approche de l'œuvre de Dieu en notre faveur et de la manière dont le Saint-Esprit peut éclairer et guider votre vie. Car c'est de cela dont il s'agit, la présence et l'action du Saint-Esprit dans votre cœur. Et je prends comme référence le chapitre 5 des Actes des Apôtres, versets 27 à 42, pour voir le contexte. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel ils se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis et, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui contient la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est donné à ceux qui lui obéissent. Vous avez besoin du Saint-Esprit, nous avons tous besoin du Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie nouvelle. La vie nouvelle ne vient que par le Saint-Esprit de Dieu. Ça ne peut pas être autrement. Nous sommes forgés dans la vie présente, dans les conditions de vie actuelles, dans notre nature d'homme pécheur. Et pour que quelque chose vienne et change notre vie, il vous faut le Saint-Esprit de Dieu. Alors, qui est le Saint-Esprit et comment l'identifier? Je ne vais pas faire un long discours. Le Saint-Esprit, c'est tout simplement l'Esprit de Dieu, l'Esprit éternel, l'Esprit de Christ, c'est le même Esprit, c'est un seul et même Esprit, il n'y a pas plusieurs esprits, il n'y a qu'un seul Esprit qui est dans le Père et dans le Fils et qui rend toujours témoignage à Jésus. Voilà la mission du Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage à Jésus. Alors comment le Saint-Esprit peut-il être en relation avec vous, vous conduire dans la vérité, vous inspirer, opérer en vous? Eh bien, pour être éclairé à ce sujet et sur la manière d'accueillir l'Esprit et de bénéficier de sa présence, il vous faut d'abord comprendre le monde divin, les relations au sein de la divinité depuis le commencement, ce qui plaisait à l'Esprit, ce qui lui permettait d'être à l'œuvre. Dès le début, dès le commencement de la création. Alors nous lisons justement le deuxième verset du livre de la Genèse. Après que Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Certaines traductions pouvaient dire planer là au-dessus des eaux. Il était comme en train de couver la terre parce que quelque chose devait se produire. L'Esprit de Dieu était là à la surface de l'abîme. Il se mouvait au-dessus des eaux. Il était prêt pour l'œuvre divine. Il était prêt pour le moment où Dieu ferait retentir sa parole. Et donc, présent au commencement, prêt pour l'œuvre créationnelle, pour veiller, accompagner, donner la vie. Il est dans la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui fait venir toute chose à l'existence. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et à partir de ce moment, c'est la création de toute chose qui commence par la parole de Dieu et l'Esprit est là, à l'œuvre, qui participe à cette création. Le Père, le Fils, l'Esprit sont en étroite collaboration pour que l'homme soit créé à l'image de Dieu. Finalement, parce que le but de cette création, c'est qu'un être puisse correspondre avec Dieu, puisse correspondre à Dieu, porte l'image de Dieu. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa homme et la femme. Alors, le Saint-Esprit devait se réjouir de cette œuvre et de cette création de l'homme à l'image de Dieu. Mais quelle tristesse pour lui quand il est privé d'agir au cœur de l'homme par l'émancipation de celui-ci, la chute, en prenant son autonomie vis-à-vis de Dieu, l'homme s'est privé des ressources de l'Esprit de Dieu, l'Esprit créateur, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vie. Alors, il a dû se passer quelque chose dans les cieux à ce moment-là, dans le conseil céleste. Le Seigneur, en quelque sorte, s'est concerté avec lui-même et il a décidé de mettre à exécution le plan préparé à l'avance. Et d'une certaine manière, on peut dire le Père a parlé au Fils par lequel il avait créé le monde. Le Père a parlé au Fils du rachat de l'homme pécheur. Et le Fils s'est avancé avec ses paroles. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Parole que l'on trouve dans le psaume 40, versets 7 à 9, et qui est repris dans l'épître aux Hébreux. Au chapitre 10, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Le Fils s'est avancé, il s'est offert d'aller, de rencontrer l'homme pécheur, de faire la volonté du Père. préparé comme un agneau immolé avant la fondation du monde, il est écrit. Donc c'est bien cela qui a dû se passer, se jouer dans cette relation entre le Père et le Fils avant son incarnation. Et le Fils ayant donné son plein accord à faire la volonté du Père, eh bien à ce moment-là, l'Esprit a pu agir. Combien il a dû se réjouir de l'obéissance du Fils. L'Esprit est descendu à ce moment-là. Il est venu sur Marie. Il l'a couverte de l'ombre du Tout-Puissant. Il a conçu en son sein l'enfant nouveau, le nouvel homme, le Fils de Dieu fait homme. Voici, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est bien l'Esprit qui a pu se mettre à l'œuvre pour que vienne dans ce monde l'homme parfait. Et cet homme parfait a grandi, rempli de sagesse. Il s'est fortifié. Il est arrivé à la maturité. Et à ce moment-là, il a été question pour lui de s'engager envers les pécheurs. Et il s'est présenté à celui qui baptisait les pécheurs, Jean. Il s'est avancé pour être baptisé lui-même. Il s'identifiait aux pécheurs. Et là, Jean lui disait, « Non, 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 ce n'est pas à moi à te baptiser, c'est à moi à être baptisé par toi. » Mais Jésus lui a dit, « Laisse faire ce qui est convenable. » Le Fils était dans l'obéissance à ce que le Père lui demandait. Il a été baptisé. Et que s'est-il passé à ce moment-là? Le Saint-Esprit a pu descendre sur lui et le remplir de sa plénitude. Le Saint-Esprit était là, qui observait, qui assistait et qui participait à l'obéissance du Fils. Alors une fois que Jésus a été baptisé, rempli de la plénitude de l'Esprit-Saint, il a passé la première épreuve, rempli de ce Saint-Esprit. Et face à l'adversaire, à la tentation du diable, il a tenu bon. Et à ce moment-là, eh bien, le ministère de l'Esprit a pu commencer. Il est écrit dans Luc, au chapitre donc 1, verset, chapitre 3, pardon, Marc. Tout d'abord, au chapitre 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Et puis ensuite, après avoir remporté cette victoire sur la tentation, au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Le Saint-Esprit a pu déployer sa puissance dans les paroles de Jésus, dans ses actes, par les miracles que Jésus accompagnait. Tout ça était l'œuvre du Saint-Esprit, qui correspondait à l'obéissance du Fils, à sa fermeté devant l'ennemi. Et puis, un peu plus loin, nous voyons l'Esprit se réjouir au chapitre 10, puisque de cet évangile de Luc. En ce moment même, verset 21, bien sûr, il faut toujours prendre un peu le contexte. Alors, les 70, verset 17, revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » C'est le Saint-Esprit qui se réjouissait de la révélation du mystère de Dieu par le ministère de Jésus, non aux sages et aux intelligents, mais aux enfants et à ceux qui avaient suivi Jésus, on le voit dans la suite du passage. Mais l'étape cruciale approchait. Le Fils allait-il assumer sa mission jusqu'au bout ? L'Esprit était là, pleinement consentant, je dirais pleinement concentré sur les décisions, la mission du Fils. Il était là quand Jésus n'a pas détourné ses pas. Il l'a vu s'engager dans l'obéissance jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Je vous lis dans Philippiens, chapitre 2, le verset 8, bien sûr, enfin tout ce passage qui vient à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » L'obéissance du Fils, qui est rappelée aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, verset 8. Il a appris, bien qu'il soit Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus est entré dans une pleine obéissance jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à ce moment où il a dit, étant sur la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Cette exclamation témoigne qu'il avait fait la volonté du Père jusque dans son dernier aspect qui était annoncé dans le psaume 31, verset 6, car cette parole « Je remets mon esprit entre tes mains » est dans ce psaume et elle signe la fin de la consécration de Jésus en tant que victime pour l'homme pécheur. Je remets mon esprit entre tes mains. Jésus n'a fait que ce qu'il voyait faire au Père. Il n'a dit que les paroles qu'il entendait du Père. Il a tout accompli, toute la volonté du Père. Alors, après les 3 jours annoncés, l'Esprit a pu accomplir sa grande œuvre. Redonner la vie du Père à ce Fils parfait qui était mort pour nous. L'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts afin qu'il vive pour Dieu. L'Esprit l'a glorifié, l'Esprit l'a élevé. L'Esprit était libre de témoigner de toute la gloire de Dieu grâce à l'obéissance du Fils. L'Esprit a pu faire l'œuvre de la régénération, de la nouvelle vie donnée à l'homme. Alors, ça ne s'est pas arrêté là. Maintenant, c'est nous qui sommes concernés. Dans leur amour pour le monde, les trois qui agissent toujours en plein accord, le Père, le Fils, l'Esprit, ont pu déclencher le ministère de l'Esprit parmi les croyants. L'Esprit a été envoyé du ciel le jour de la Pentecôte pour recouvrir les disciples, agir au milieu d'eux et pour eux, par eux aussi dans le monde. Alors pour qui et avec qui l'Esprit a-t-il travaillé? Parce qu'il vient d'être rappelé, vous pouvez comprendre que l'Esprit est hypersensible, je parle de manière humaine, l'Esprit est hypersensible à l'obéissance. L'Esprit ne demande rien d'autre chez les croyants que l'obéissance qu'il a observée dans notre Sauveur. Dieu ne cherche que votre obéissance qui fait écho à celle de Jésus. Sur qui l'Esprit a-t-il été d'abord répandu? Sur ses disciples qui avaient persévéré avec lui jusqu'au bout dans ses épreuves. Bien sûr, à l'heure de la croix, ils n'avaient pas pu résister. Mais jusque-là, ils avaient supporté tout avec leur maître. Toutes les contraintes du témoignage. Ils avaient suivi Jésus jusqu'au bout. Ils avaient supporté avec lui l'opposition, les conditions extrêmes de son ministère. C'est sur eux que l'Esprit est descendu. Et puis sur les femmes qui avaient assisté Jésus de leur bien, qui accompagnaient Jésus, qui l'assistaient de leur bien et qui étaient là, pas loin de la croix, lors de son supplice, qui pleuraient sur lui. Et puis l'Esprit est descendu sur Marie. Je vous lis donc dans Actes ce qui était présent dans la chambre haute pour le jour de la Pentecôte. Verset 14, 1, chapitre 1. « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est sur eux que l'Esprit est descendu. Et je disais sur Marie, à qui une épée avait transpercé l'âme, pour que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées selon la prophétie de Siméon. Et donc quelques autres qui allaient souffrir pour l'Église, les frères de Jésus. C'est sur eux que l'Esprit est descendu parce que l'obéissance de ceux-là était avérée, malgré leur faiblesse. Ce n'étaient pas des hommes parfaits. Ils avaient failli à certains moments, mais ils avaient obéi. Ils s'étaient engagés, ils avaient suivi Jésus. Ils avaient cru, et suite aux 40 jours durant lesquels le Maître leur était encore apparu, ils étaient maintenant dans l'attente, en sachant que la venue de l'Esprit serait synonyme de vie nouvelle, de puissance, mais aussi de tribulation. Ils avaient été avertis. Et cela n'a pas tardé, l'Esprit est descendu, la bonne nouvelle a été prêchée, et très vite, l'opposition s'est déchaînée. C'est le passage que nous avons lu dans les Actes. C'est dans ce contexte que Pierre a donné cette parole. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et aussi, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. L'Esprit porte toute son attention sur votre obéissance. Il ne veut qu'une chose, que le Père et le Fils lui disent « Vois cet homme, vois cette femme, vois cet enfant, cette jeune fille, ce jeune homme. Il a obéi, elle a obéi. Va, remplis-le, visite-le, donne-lui la vie, équipe-le. » Voilà ce que l'Esprit attend et qu'il entend du Père et où il peut, à ce moment-là, intervenir, agir, se manifester. Mais quelle est cette obéissance? D'où nous vient cette obéissance? Tout simplement de la foi. Nul ne s'avance pour obéir à Dieu s'il n'est pas attiré par le témoignage de Dieu. Dieu vous aime. Dieu est fidèle. Dans sa sagesse infinie, Dieu a décidé de donner son Fils bien-aimé pour que sa justice soit satisfaite. Dieu a effacé votre péché par le sacrifice de son Fils. Il présente ce don à votre conscience. Il parle à votre être raisonnable, à cet être qu'il a créé à son image, qu'il a conçu pour être en relation avec lui, mais qui malheureusement fonctionne en autonomie. Misérable autonomie dans laquelle les fautes, les erreurs, les offenses envers le Créateur se multiplient. Alors Dieu vous dit, j'ai fait la paix. Par le sang de la croix, je t'ai rapproché de moi. Écoute, reviens à moi. Laisse ton indépendance coupable. Ce que j'ai fait de toi peut être nouveau, saint, utile, à vocation éternelle et non plus marqué par la vanité et la mort. Donne-moi donc ton cœur. Donne-moi ta vie. C'est ainsi que Dieu parle. Et si vous commencez vraiment à écouter Dieu, vous obéirez. Écouter et obéir ont la même racine. C'est pratiquement le même mot. Aucun parent n'est dupe de l'obéissance de son enfant quand il le voit écouter d'une oreille distraite. Si l'enfant n'écoute pas, il n'obéira pas. L'obéissance commence par l'écoute. Si vous écoutez Dieu, il vous convaincra. Vous lui ferez confiance et vous obéirez. Le but des apôtres, des évangélistes, des prophètes est d'amener à l'obéissance de la foi, comme dit l'apôtre Paul dans son introduction à l'épître aux Romains. L'obéissance de la foi, tous les gens des peuples. La prédication du Fils de Dieu est une annonce destinée à convaincre votre âme d'avoir foi en Dieu. De là, vous vous donnez à lui, vous dites les paroles de la foi, vous en accomplissez les actes et le Saint-Esprit vous est donné. C'est l'obéissance initiale qui va produire des obéissances en cascade dans votre vie avec l'assistance du Saint-Esprit. La vie du nouveau-né en Christ est remplie d'obéissance toujours nouvelle. C'est un sujet à reprendre en soi. Alors l'obéissance est incompatible avec l'atermoiement. Le doute casse l'obéissance et le raisonnement la bloque durablement. Que d'arguments pour refuser d'obéir. Réfléchir, c'est une action juste. Dieu ne vous demande pas d'abdiquer l'intelligence qu'il vous a donnée, mais il ne voudrait donc pas voir cette obéissance être mise à mal par des faux raisonnements. Toutes sortes de raisons peuvent vous détourner d'obéir. Et tant que vous n'avez pas obéi, vous n'êtes pas encore sur le chemin du salut. Alors, Dieu vous presse d'obéir. Lorsque Jacob a envoyé Joseph vers ses frères, vous connaissez peut-être cette histoire de donc l'Ancien Testament, hein ? Excusez-moi. Qui est justement typique de l'engagement de Jésus-Christ envers nous, en fait. Mais lorsque donc Jacob a envoyé Joseph vers ses frères en rase campagne, ce fils bien-aimé de son père aurait eu des raisons d'hésiter, vu ce qu'il connaissait des mauvais sentiments de ses frères envers lui. Mais il a obéi. Il est allé, à son détriment dans un premier temps, à son détriment dans un deuxième temps, parce que Joseph a été vendu comme esclave, et puis là-bas en Égypte, il a été faussement calomnié et il s'est retrouvé en prison. Mais finalement, à la gloire de Dieu, puisque Joseph a été appelé par le Pharaon et il est devenu le gouverneur de l'Égypte qui a permis à ses frères d'être sauvés au moment de la famine. Joseph s'est engagé, il a obéi et Dieu a béni. Et il est dit que l'Éternel était avec lui dans tout ce qu'il faisait. L'appel de Dieu est clair. Veux-tu me donner ton être moral que j'ai créé pour ma gloire? Mon fils bien-aimé a obéi. Veux-tu obéir avec lui et devenir l'un de mes fils, l'une de mes filles? Oui, tu prendras avec lui un chemin resserré et difficile. Oui, il y a la croix du renoncement au monde, mais à la fin, il y a la gloire. Si tu dis oui, si tu obéis, mon Saint-Esprit, l'Esprit de mon Fils, viendra sur toi, je t'en fais la promesse. Il te prendra, il te purifiera par le sang de la croix. Il te fera passer par le bain de la régénération. Il t'équipera pour la vie nouvelle au milieu des saints. Crois-tu cela? Entends-tu ma voix dans ton être moral? Dans ce message, je commence à insister sur l'être moral. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment, c'était vraiment à lui que Dieu s'adresse. Il vous a créé dans un absolu pour lui correspondre au plan moral. C'est là le véritable homme spirituel. Vous savez, pour être spirituel, il ne faut pas se mettre dans la position du lotus et entrer dans la pleine conscience de soi. L'homme spirituel est celui qui reçoit la parole de Dieu et retrouve la parole pour glorifier son Créateur. Alors, peu importe votre environnement social ou votre état psychologique, Dieu transcende le monde et sa parole vient réveiller votre conscience morale, lui redonner sa raison d'être. Sa parole s'adresse à votre cœur et vous dit « Veux-tu de la vérité? Veux-tu de ma vie invisible? Si vous vous laissez remuer, convaincre, remettre en cause, il vous libère de ces environnements sociaux, de ces états psychologiques qui peuvent être des pièges pour vous, qui vous tiennent captifs comme Israël en Égypte. Dieu est allé chercher un peuple captif et il l'a libéré de tout ce qui pesait, tout ce qui dominait sur lui. Alors obéissez donc à la parole qui vous dit « Lève-toi, va, parle, suis-moi, sois baptisé pour le pardon de tes péchés. » Les impératifs de votre Seigneur vous reconstituent en être libre, responsable. Vous retrouvez votre vocation d'homme, homme ou femme, qui sert Dieu, son Créateur et Sauveur. L'appel à croire vous fait grandir au-delà de ce que vous pouvez penser. Vous entrez en relation avec votre Seigneur et le Saint-Esprit vous est donné. Vous ne serez plus jamais seul. Et ne plus être seul, Le Seigneur le rappelle particulièrement à ceux qui ont fait l'expérience de la conversion. C'est aimer, partager, écouter et agir en communion avec le Saint-Esprit. J'en ai fait allusion, cela devrait être développé dans un autre message. Pour terminer, les engagements qui vous grandissent, qui vous mettent en vraie relation avec Dieu, impliquent le renoncement au monde qui vit sans Dieu, et donc des séparations, des privations, des opprobres. Mais toutes ces contrariétés sont peu de choses comparées au gain de la présence divine, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, comme le mentionne l'apôtre aussi dans son épître aux Romains, chapitre 14. C'est bien cela que je vous souhaite, que je voulais raviver peut-être dans le cœur de plusieurs ou présenter à la conscience de façon nouvelle pour quelques-uns. Le Saint-Esprit agit dans ce contexte qu'il a vu, qu'il a expérimenté au sein de la divinité, de l'amour et de l'obéissance. Et là, il peut être donné, il peut venir changer la vie. Il peut transformer votre être et vous donner la véritable destinée. Amen. Seigneur Dieu, Père Céleste, je veux te bénir, te rendre grâce. Tu es notre Dieu créateur, tu nous as vus dans notre misère, dans notre éloignement, dans notre autonomie misérable. Tu nous as appelés. Je suis bien conscient que parmi ceux qui sont présents dans cette salle ce matin, tu as déjà fait cette œuvre de révélation de ta grâce, de révélation de ton amour, de ta justice, de ta sainteté, de révélation de la vie nouvelle qui est offerte, de révélation de Jésus-Christ par qui tout cela est passé. Seigneur, merci. Et maintenant, Seigneur, donne-nous une véritable obéissance. Seigneur, que nous ne soyons pas dans un compromis, dans des décisions moyennes qui ne sont satisfaisantes ni pour toi, ni pour nous. Donne-nous la complète obéissance, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen.